piața Yaounde, Yaounde la capital.
La fusion de toutes les cultures.
Rassemblement de tout le peuple.
Sur Radio Campus Est. Sur Radio Campus Est.
Voici la minute du droit. La minute du droit, c'est un programme d'éducation aux droits humains. La minute du droit, c'est un programme d'information et de sensibilisation aux droits et obligations des justiciables lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. C'est un programme radiophonique interactif réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires Globales Canada et l'appui technique de l'ONG internationale suisse International Bridges to Justice. La Minute du Droit, c'est un programme animé par Yvon Mabofé, consultant international en droit de l'homme, avec la participation des professionnels du droit à l'instar de Kabra Libi, journaliste, juriste internationaliste et expert en droit de l'homme. Sa Majesté Joseph Raoul Macondo, juriste et expert en droit de l'homme. Le programme bénéficie également de la participation des magistrats, avocats, enseignants d'université et autres acteurs de la société civile. La Minute du Droit, c'est tous les mardis et jeudis de 9h à 9h30 sur Radio Campus UY2. La Minute du Droit, c'est le droit à votre portée, un programme au service du droit et du développement.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, soyez une fois de plus les bienvenus à cette plateforme d'échange et de partage sur les questions liées aux droits de l'homme dans le cadre de ce programme radiographique intitulé « La Minute du Droit ». Ce programme, disais-je, est un espace d'échange où vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts ici présents. À cet effet, chers auditeurs et auditrices, sentez-vous libres de les appeler directement au numéro suivant. 653 81 19 18 653 81 19 18 ou au 242 00 65 38 242 00 65 38 ou alors de nous envoyer un SMS au 655 44 60 92. Le mardi dernier, il y a cela deux jours, nous avons introduit cette émission avec une thématique qui occupe une place centrale dans le nouveau code de procédure pénale, à savoir l'arrestation. Plusieurs points en rapport avec le dit thème avaient été analysés par nos experts. Il s'agissait notamment de la définition de l'arrestation et des conditions de celle-ci avec un focus sur le flagrant délit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos échanges par un examen minutieux des droits de la personne arrêtée. Pour le faire, nous avons avec nous, autour de ce plateau, deux experts. L'un est journaliste, juriste internationaliste et expert en droit de l'homme, j'ai nommé Kabra Libi. Kabra Libi, bonjour.
Bonjour,
Voilà, je pense que maintenant le problème du micro est réglé. Bonjour à toi Yvon, bonjour à tous ces nombreux auditeurs qui nous reçoivent à l'instant.
Merci Kabalibi, vous allez bien ce matin?
Ben ça va, par la grâce de Dieu, on tient debout.
Merci bien Kabalibi. L'autre est une autorité traditionnelle, juriste et expert en droits humains. Il s'agit de Sa Majesté Joseph Raoul Makondo. Sa Majesté, bonjour.
Bonjour Yvon, bonjour Cabral, bonjour nombreux auditeurs de Radio Campus.
Merci, vous allez bien ce matin?
On se porte comme le Cameroun.
Ah ok, le Cameroun se porte bien
ça
alors.
Ça dépend du côté où on se trouve.
Merci, souhaitons que vous vous trouviez au bon côté. Chers auditeurs et auditrices, avant de recueillir les avis, conseils et orientations de nos experts sur le sujet de ce jour, nous allons souffler le temps d'une pause musicale et revenir juste après. Voilà. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, chères auditrices, nous revenons à vous. Alors, Kabalibi, le mardi dernier déjà, vous avez souligné hein, et vous avez insisté sur ce point que la liberté était le principe et puis l'arrestation l'exception. Et vous avez également indiqué concernant les personnes qui étaient habilitées à procéder, à arrêter, on va le dire comme ça de manière terre à terre, il y avait les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et aussi les particuliers, mais dans le cadre du flagrant délit. Est-ce que pour la gouverne de nos auditeurs, vous pourrez peut-être nous faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui sont en train de nous prendre de coup?
Ben c'est bien ce rappel que tu viens de faire. Nous avons précisé ensemble, d'ailleurs, la dernière fois, que le principe où était la liberté fondamentale d'un citoyen d'aller et venir. C'est ça le principe. Nous sommes tous libres fondamentalement d'aller et venir comme nous voulons et où nous voulons, évidemment dans les limites du droit. Mais ce principe peut connaître un infléchissement, une exception. C'est ça qu'on appelle l'arrestation, qui est en fait définie par le code de procédure pénale, je le disais, au titre 3. Tout un titre y est consacré à partir de l'article 30. Et nous disions que c'est le fait d'appréhender une personne, donc de le priver ou de la priver, la personne, de sa liberté d'aller et venir sur instruction des autorités habilitées à le faire. Ces autorités sont principalement de deux ordres. Ce sont les autorités de police, les autorités de police judiciaire, parce que quand on parle d'autorités de police, il y a les forces de l'ordre normal, et puis il y a les autorités de police judiciaire qui peuvent être des agents ou des officiers, ou alors les autorités judiciaires, c'est-à-dire les magistrats d'instruction et tout ce qu'on veut. Et à côté de cela, il y a cette autre possibilité, tu le rappelais tantôt, d'être arrêté, donc privé de sa liberté d'aller et venir par les citoyens, c'est-à-dire par des personnes particulières, les particuliers comme vous avez dit. Et ça, c'est uniquement dans le cas du flagrant délit. Le flagrant délit étant la circonstance de commission immédiate ou récente d'une infraction délictuelle ou criminelle, ou alors dans des circonstances où après la commission de cette infraction, la personne est poursuivie par une clameur populaire, ça c'est également une circonstance de flagrance. Il y a aussi la circonstance où une personne se trouve en possession d'un certain nombre d'objets ou alors d'indices laissant penser que l'objet qui a été volé ou que l'infraction qui a été commis le concerne comme acteur ou coacteur. Voilà les circonstances de la flagrance, de ce qu'on appelle le flagrant délit ou la flagrante infraction. Dans ces circonstances-là, la personne peut être arrêtée. Maintenant, une fois que la personne est arrêtée, ses droits ne disparaissent pas pour autant. Et je pense que c'est la meilleure transition qu'on peut faire sur la thématique d'aujourd'hui.
Merci, Cabral Louis. Je reviens à vous, sa Majesté, Joseph Raluma Kondo. Alors, Cabral le disait au dernier point par rapport concernant les indices qui concordaient et qui laissaient à penser que nous serons dans un cas de flagrant délit. Dans le cas de Jean-Claude Essomba ou la voisine de Baleguel par rapport au cas que nous avons examiné mardi dernier, avait lors de son interrogatoire au niveau des officiers de la police, avait dit hein, que c'était Jean-Claude Essomba qui était le présumé voleur des 2 millions de francs CFA, parce qu'en réalité, les policiers avaient retrouvé sur Jean-Claude Essomba la somme de 1 750 000 francs. Et on indiquait aussi que les autres 250 000 francs avaient été consommés dans les débits de boissons et tout ça. Alors moi, je voudrais vous poser directement cette question. Est-ce que les policiers ont-ils le droit d'user de la force pendant l'arrestation lorsqu'ils avaient, par exemple, interpellé Jean-Claude Essomba, l'ont amené à la police? Est-ce qu'ils peuvent user de force comme ça pour l'arrêter et le conduire au poste de police et puis l'incarcérer?
Merci, Yvan. Les policiers ont-ils le droit d'arrêter de force M. Jean-Claude Essomba? Ce qu'il faut dire d'abord, Yvan, c'est que l'article 30, alinéa 2 du nouveau code de procédure pénale du Cameroun, précise que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à une arrestation enjoint à la personne à arrêter de le suivre et, en cas de refus, fait usage de tout moyen de coercition. Ce que nous savons aussi, c'est que le législateur ne précise pas de façon claire le contenu des moyens de coercition. Par contre, dans le même article, et dans son alinéa 4, le législateur précise toute personne, le législateur précise en alinéa 4, je veux dire, aucune atteinte ne doit être portée à l'intégrité physique ou morale de la personne arrêtée. On comprend donc qu'en cas de résistance, ici, il n'a point besoin d'utiliser des moyens de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne à arrêter. On comprend que les moyens de coercition qui ici sont évoqués sont ceux qui doivent être en adéquation ou doivent être proportionnels à l'action de résistance. Dit autrement, pendant l'arrestation, il n'est pas question ici de porter atteinte à l'intégrité de la personne, par exemple, battre, bastonner la personne, par exemple, lui donner des coups de poing, comme on a l'habitude de le faire un peu partout. On racle, quand on vient arrêter un prévenu, on le racle, on l'insulte, on le rue de coups autres. Ce n'est pas ce qui est indiqué ici. Il s'agit, en cas de résistance, de neutraliser la personne. On peut faire appel à un renfort, voire de moyens de coercition. On peut, par exemple, porter la personne. Voilà un moyen de coercition. Mais il n'est pas indiqué de porter atteinte à son intégrité physique ou morale. Ce qu'il faut retenir quand on parle de moyens de coercition, c'est que ces moyens doivent être proportionnels à la résistance opposée par la personne. On ne peut pas comprendre que pour arrêter M. Jean-Claude Essomba, qu'on ait besoin de lui casser le pied, ou qu'on ait besoin de lui casser le bras, qu'on ait besoin de lui tordre le cou ou de lui percer de l'œil. Non. Ce qu'il faut dire ici, c'est que même quand on est arrêté, ou alors quand on doit être arrêté, on demeure un homme et on a des droits qui doivent être préservés.
Merci, Sa Majesté. Mais je reviens à vous, Cabral Libi. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans le cas qu'évoquait Sa Majesté tout à l'heure, supposons que Jean-Claude Essomba est arrêté de manière normale, les policiers n'usent point de force pour l'arrêter ou bien pour le conduire au poste de police. Et s'il y a quand même certaines garanties dont peuvent jouir les personnes arrêtées, une fois que vous êtes arrêté, est-ce que vous avez par exemple des possibilités de recevoir les membres de vos familles, des avocats et comme ça? Quelles sont toutes les garanties juridiques autour, n'est-ce pas, qui peuvent laisser à penser que le législateur camerounais a quand même défini un ensemble de droits dont pourraient jouir les personnes arrêtées?
Alors, la question en fait que vous posez, si on la reformulait en des termes juridiques, si on veut, mais encore que dans ce type de programme, il faut toujours avoir le langage le plus prosaïque possible, c'est celle de l'assistance. Est-ce qu'une personne, c'est ce que vous appelez garantie en fait, c'est que une fois qu'une personne est arrêtée par, normalement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire par des agents ou des officiers de police judiciaire, est-ce que cette personne peut donc recevoir une assistance autre que celle que pourrait éventuellement lui donner ceux qui l'ont arrêté? Eh bien, le code de procédure pénale en vigueur au Cameroun, nous l'avons dit depuis 2007, mais il a été adopté en 2005, précise bien que dès que vous êtes arrêté. Et d'ailleurs, j'aime souvent rappeler ceux qui regardent les films américains, notamment les films policiers, ils voient que généralement, lorsque la police attrape quelqu'un, exactement au moment où on est en train de lui enfiler les menottes, souvent l'agent de police qui l'arrête ou le shérif, c'est selon, lui dit toujours, vous avez le droit de garder le silence et de vous faire assister par un avocat. C'est un droit. En fait, ce droit, il est consacré par les textes internationaux que le Cameroun a ratifiés, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais davantage le pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Cameroun, puisqu'on est au Cameroun, a d'ailleurs ratifié, je crois, depuis 1984. Mais le pacte lui-même a été adopté, je crois, en 1946. Il y en a deux. Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Et là, c'est le premier pacte qui nous intéresse. Et c'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois, je vous rappelais ici que c'est le professeur Stanislas Melone de Regretter Mémoire qui disait que le premier livre de procédure pénale, c'est bien la Constitution. Et chaque fois qu'on parle de textes internationaux ratifiés par le Cameroun, ils figurent, ils sont clairement mentionnés dans le c'est le bloc de constitutionnalité, mais dans le préambule de la Constitution qui fait partie aujourd'hui du bloc de constitutionnalité. Donc le code de procédure pénale est clair à cet effet. Quand vous êtes arrêté, l'agent enquêteur, parce qu'il faut savoir que la procédure pénale, elle a plusieurs phases. Quand vous êtes arrêté, on entre dans la phase préliminaire de l'enquête en fait. On doit vous entendre. On doit vous écouter, ça c'est un autre principe sur lequel on reviendra plus tard, parce que vous avez le droit de vous exprimer. Et en ce moment-là, puisque la question est délicate, puisqu'il s'agit de votre liberté, puisqu'il s'agit de votre avenir, vous n'êtes pas forcément juriste, vous ne connaissez pas les subtilités. Donc vous, si vous vous laissez aller à parler n'importe comment, vous pourriez dire quelque chose qui sera retenu. D'ailleurs, c'est ce que disent souvent les policiers dans les films américains, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Donc, généralement, il est donc préconisé en ce moment-là de se faire assister. Donc, le premier droit que vous avez lorsque vous vous êtes fait arrêter, c'est le droit de vous faire assister par quelqu'un qui connaît le droit, par un professionnel du droit qui, en l'occurrence, dans notre contexte et dans d'autres d'ailleurs, s'appelle avocat. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours les avocats ayant prêté serment, on parle généralement de conseil juridique. Mais il n'y a pas que ça. Non seulement vous avez le droit de vous faire assister par un conseil juridique, vous avez tout à fait le droit de recevoir des membres de votre famille, vous avez tout à fait le droit de recevoir un médecin, vous avez tout à fait le droit de recevoir des visiteurs. Donc, tout ce dont vous êtes privé, en réalité, c'est de la liberté d'aller et venir, mais vous avez tout à fait le droit de recevoir toute aide qui peut s'offrir à vous.
Merci, Cabral Ibé. Sa Majesté voulait également réagir.
Oui, effectivement, oui. En plus de ces différents droits, cette gamme de droits reconnus à une personne arrêtée, qui sont précisés dans l'article 37 du code de procédure pénale. Il y a aussi l'article 122 qui évoque un certain nombre de droits, par exemple, informer la personne sur le motif de son arrestation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos commissariats et gendarmeries, c'est qu'on arrête quelqu'un, il fait 48 heures de garde à vue sans qu'il soit au courant de ce pourquoi il a été arrêté. C'est un droit pour lui d'être au courant, d'être mis au courant, d'être au motif de son arrestation. En plus de cela, il est interdit d'intimider, d'interdire toute mesure d'intimidation, de violence ou de contraintes diverses à l'endroit de la personne. Ce qui se passe aujourd'hui dans les gendarmes et les commissariats, c'est qu'on contraint des gens à avouer des choses. On n'a pas besoin d'utiliser, de procéder par des contraintes, par des intimidations ou par des menaces. Il y a des subtilités juridiques, il y a des façons de faire parler quelqu'un. Mais aujourd'hui, on préfère passer parfois par la torture, par des menaces, par la bastonnade pour amener la personne en prison. Or, il est dit à l'article 122 qu'il est interdit tout cela, cette torture, cette violence, cette différence contrainte quand la personne est arrêtée. Ça rentre dans la gamme des droits qui sont reconnus à une personne qui est arrêtée.
Merci, Sa Majesté. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous avez la possibilité d'interagir avec nos experts au 653 81 19 18, 653 81 19 18, ou alors au 242 00 65 38. Sa Majesté, je reviens à vous, parce que là, c'était tout simplement une intervention à la suite de la question que nous avons posée à Cabral Libi. Alors, Sa Majesté, est-ce que je vais être terre à terre? Moi, je suis le citoyen lambda. Le citoyen lambda qui ne maîtrise rien en droit. Alors, je pose une question. Le dernier cas pratique, on avait bien vu que des policiers s'étaient introduits chez un tiers parce qu'on a récupéré Jean-Claude Balleguel qui était chez le voisin. Les policiers se sont introduits chez ce tiers et puis ils ont interpellé Balleguel, ils l'ont conduit à la police. J'aimerais savoir, est-ce que c'est légal? Et si oui, dans quelles conditions c'est légal?
Moi, j'aime toujours m'appuyer sur les dispositions législatives ou réglementaires. Dans le cas d'espèce, je vais m'appuyer sur la disposition législative avec le nouveau code de procédure pénale en son article 23 qui dispose qu'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt peut s'introduire dans une résidence pour procéder à une arrestation à condition que cela se fasse entre 6h et 18h. Et on comprend clairement que s'il le fait en dehors de 16h, c'est illégal. Et bien plus, l'article 36 du même code de procédure précise que lorsqu'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat de justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu privé, l'occupant est tenu de lui en faciliter l'accès. Ensuite, on précise qu'en cas de refus, l'officier de police judiciaire en dresse procès verbal requiert tout au moins immédiatement disponible et s'introduit de force dans le dit lieu. On comprend donc clairement qu'il est possible ici pour le policier de s'introduire dans une domicile d'une personne tierce au fin d'arrêter la personne. Et dans le cas d'espèce, il était question d'arrêter Jean-Claude Essomba. Et c'est légal qu'il s'introduise dans son domicile, mais à certaines conditions que nous avons présentées.
Donc, le forfait a été commis, je crois, à 14h30. Et à 18h, je crois, on a interpellé Jean-Claude Balleguel, Jean-Claude Essomba. On est dans les délais, il n'y a pas de problème.
On est dans les délais.
On est dans les délais. Okay, dans l'espace. Ok, d'accord.
On est dans les délais. Puisque il y a flagrant délit. La flagrance est avérée. Il y a au moins deux éléments qui nous permettent de parler de flagrance ici. Il y a la clameur populaire avec madame qui pousse un cri strident ayant surpris M. Jean-Claude Essomba en train de commettre son forfait. Mais il y a, et on précise clairement que la poule est venue, la poule accourt. Et le deuxième élément, c'est que quelques temps après, on l'a trouvé en train de dépenser de l'argent qui correspondait au montant d'argent qui avait été volé. Donc on comprend que nous sommes là dans le flagrant délit.
Merci. Je rappelle encore, chers auditeurs, que vous avez la possibilité d'interagir, sentez-vous libre, avec nos experts pour toute question de droit, notamment en rapport avec le dit sujet, au 653 81 19 18, 653 81 19 18, ou alors au 242 00 65 38, ou encore nous envoyer un SMS au 655 44 60 92, 655 44 60 92. Cabral Libi.
Oui.
Je vais vous poser aussi une question. C'est très fréquent dans les commissariats maintenant. Allô, un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Oui, bonjour Yvan et bonjour à tes invités sur le plateau.
Merci. Comment vous appelez et quelle est votre question?
Je suis Edouard du quartier Obili.
Edouard, c'est ça?
Oui.
Oui. Oui, Edouard.
Alors, j'aimerais savoir si l'officier de police, petit officier de police judiciaire, a-t-il le pouvoir de recourir à la brutalité envers le ou les personnes proches de la personne arrêtée pour mettre la main sur ce dernier. Il y a eu un cas dans mon quartier, la personne arrêtée était introuvable et les agents de police se sont mis à menacer et brutaliser les membres de sa famille sous prétexte qu'ils savaient où se trouvait cette personne.
Ok, merci. Je laisse allant l'autre expert la possibilité d'intervenir ou de donner des orientations sur cette question.
Si nous sommes déjà d'accord qu'il n'est pas besoin d'utiliser la violence pour arrêter quelqu'un, même s'il est présumé coupable. Comment, à force de raison, on peut exercer cette violence sur ses proches? On comprend clairement qu'ici, l'usage de la violence est interdit. Aucune intimidation n'est de mise. Tout ce que nous avons dit, c'est que si on se rend compte que vous êtes peut-être compliqué, ou vous êtes en train de protéger quelqu'un, au moment où on veut accéder, ou l'officier veut s'introduire dans le domicile, il peut, après avoir dressé un procès verbal et devant témoin, entrer de force, mais pas brutaliser, entrer de force dans le domicile, s'introduire dans le domicile, s'il est convaincu de que la personne arrêtée est dans ce domicile. Maintenant, si ils n'ont aucune trace de votre frère ou de votre proche, ils n'ont aucune raison de vous brutaliser, de vous intimider, d'utiliser des traitements, d'employer des mesures dégradantes pour vous amener à collaborer. Il y a des moyens juridiques, il y a d'autres moyens juridiques. On n'est pas toujours obligé de passer par ces moyens matériels qui, à la vérité, souvent connaissent de nombreuses, contiennent de nombreux abus, de nombreuses exactions.
Merci. Cabral?
Alors, sur cette question, il y a deux, ou en fait, à la suite de Raoul, je pense d'ailleurs que l'essentiel a été dit. La question de M. Edouard est celle de savoir si on peut brutaliser les proches de la personne recherchée. Ça veut dire que dans ce cas-là, on n'est pas déjà dans un flagrant délit, évidemment. On sort du flagrant délit, c'est-à-dire on ne l'a pas attrapé en train de voler, on ne l'a même pas vu en possession d'un objet ou d'indice, laissant penser que c'est lui qui a volé, pour revenir au cas de M. Somba. Ça suppose que ceux qui le cherchent sont munis d'un mandat d'arrêt. En fait, parce que quand on dit on cherche quelqu'un et on commence à brutaliser ses proches, pour chercher même déjà quelqu'un, chercher quelqu'un pour l'arrêter, il faut être muni d'un mandat. Et on l'a évoqué la dernière fois. Un mandat d'arrêt, mandat d'amener ou tout ce que vous voulez. On a révisé la batterie de mandat la dernière fois. Et lorsque vous avez ce mandat, vous arrêtez quelqu'un que vous voyez. Parce que si, par extraordinaire ou par aventure, vous avez des informations laissant croire que la personne dont vous détenez le mandat d'arrestation est cachée dans une maison, il faut maintenant que vous puissiez entrer dans cette maison pour fouiller cette maison. Et là, il vous faut un mandat supplémentaire.
Tout à fait.
Vous ne pouvez pas entrer dans le domicile des gens parce que vous arrêtez quelqu'un. Si au moins il était poursuivi par une clameur populaire, ce qui nous ramènerait au flagrant délit, et que dans sa fuite, poursuivi par la foule, il s'est introduit dans une maison, là c'est autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, de quel droit vous entrez dans une maison? D'abord sans en avoir... Parce que si vous avez le mandat d'entrer dans une maison, c'est-à-dire le mandat de perquisitionner, c'est le mandat de perquisition, d'entrer dans une maison pour la fouiller et trouver ce que vous voulez qui conforterait ce pourquoi vous avez le mandat, évidemment, ces personnes-là ne sauraient faire obstacle à l'exécution du mandat. Si on en arrive à intimider des gens, à les brutaliser, ça veut dire qu'on n'a pas de mandat. Ça veut dire qu'on tombe sous le coup de toute autre chose. C'est la torture gratuite. Et ça, vous tombez, eux-mêmes, ces officiers qui font ça, tombent sous le coup de la loi. Donc, il y a c'est des choses, et il a bien fait de poser cette question, c'est des choses que nous vivons beaucoup dans nos quartiers. Un matin, vous voyez deux individus arriver, d'abord qui ne prennent même pas souvent la peine de se présenter, tout simplement même de décliner leur identité, oubliant même qu'il y a des bandits aujourd'hui qui se baladent en tenue de police ou de gendarmes. Ils ne prennent même pas la peine de montrer leur carte. Quand même, ils l'auraient fait pour s'introduire. Mais moi, je veux quand même comprendre cette situation. Donc, parce que je suis le frère de quelqu'un. En fait, on connaît même la Bible. Quelqu'un avait répondu à Dieu, même à Dieu lui-même, je suis le gardien de mon frère. Même si c'est mon frère ou ma soeur qui a commis une infraction. Vous me croisez en route et je suis censé pouvoir vous dire... Vous savez, je vais vous raconter juste une petite anecdote, si le temps le permet.
Allez-y.
Alors, un cousin dans mon village, mon cousin à moi, avait commis un forfait à Douala et il s'est enfui. Et puis les policiers qui étaient donc à sa recherche arrivent au village. Et ils demandent à rencontrer le père de mon cousin en question, qui était mon oncle. Et on leur dit que mon oncle est à la cacaouillère. Et ils s'en vont à la cacaouillère, ils trouvent mon oncle en train de défricher tranquillement sa cacaouillère. Et ils lui demandent une fois où est son fils. Il le regarde, il ne dit rien et continue à défricher tranquillement. Il lui demande une deuxième fois où est son fils. Il les trouve comme des gens un peu dérangés. Il continue à défricher. Et puis à la troisième fois, lassé de ce qu'on lui crie dessus, il leur pose une seule question. Il dit, vous m'avez l'air jeune. Alors, Est-ce qu'il demande au premier, est-ce que ton père est en vie? Il dit oui. Il demande au deuxième, est-ce que ton père est en vie? Il lui dit oui. Alors, il se trouve où vos parents? Chacun dit où leurs parents se trouvent. Alors, il leur pose la question. Si vous, là maintenant, on va trouver vos parents là où ils sont, là-bas au village, comme vous m'avez dit, et on leur demande où vous êtes, est-ce que vos parents seront en mesure de dire que vous êtes en train de me déranger ici dans ma cacahuète? Les agents eux-mêmes, ils ont compris que ça ne servait
bonne
à rien.
Histoire, hein?
Donc, oui, mais ça se rapproche de celle-là. Et puis, ils sont repartis tranquillement et ont compris qu'ils perdaient leur temps. Donc, de toute façon, on est dans le règne des adultes. Vous ne pouvez pas brutaliser la famille de quelqu'un ou les membres de la famille de quelqu'un parce que vous poursuivez la personne. En quoi la famille, à moins que vous ayez des éléments,
des indices,
comme disait Raoul tout à l'heure, qui attestent de ce que ces membres sont complices parce qu'en le cachant, en ne donnant pas l'information. Mais encore que même là, le juge dispose d'un certain nombre de mécanismes. On peut les convoquer.
Cette fois-là, comme complice.
Comme complice ou comme témoin ou tout ce que vous voulez. On peut les convoquer pour qu'ils s'expriment. Mm-hmm. Donc, c'est des exactions pures et simples. Et Edouard a bien fait de poser la question.
Et Sa Majesté l'a dit que même s'ils sont complices, on ne doit pas user de la force brutale parce que ça serait porter atteinte à leur intégrité.
Mais évidemment, s'il y a une chose qui est exclue a priori, c'est la brutalité.
C'est qu'il faut comprendre, que les gens comprennent.
Même
lorsque la personne a arrêté, elle demeure un être humain. Et en tant que tel, il a une valeur suprême et un fondateur de valeur. Voilà pourquoi le code pénal a consacré un certain nombre de mesures qui préservent cette dignité de l'espèce humaine. Il n'est pas question, parce que quelqu'un est coupable de quoi que ce soit, qu'il soit victime des traitements rébarbatifs, dégradants et inhumains.
Merci.
Et peut-être, si tu permets, tout à l'heure, quand on précisait le droit, les droits d'une personne arrêtée, dans les termes de l'article 116 du Code de procédure pénale, il faut bien préciser, c'est très important, que lorsque vous avez été arrêté, même en phase préliminaire, l'agent de police qui vous interroge dans le cadre de l'enquête préliminaire est obligé de vous informer de ce que vous avez le droit de faire appel à un avocat. C'est même lui qui est obligé de vous le faire dire. Et c'est à peine de nullité. Ça veut dire que s'il ne vous le dit pas, et d'ailleurs la loi précise que ce rappel qu'il vous fait doit être clairement mentionné sur le procès verbal. Donc le procès verbal de votre audition, il doit être clairement mentionné qu'il vous a demandé de vous faire assister et que, à le cas échéant, vous avez décliné l'offre ou pas. S'il ne l'a pas fait, c'est à peine de nullité. Ça veut dire que tout ce qui va se faire par la suite sera purement et simplement frappé de nullité, comme si rien n'avait jamais eu lieu.
Merci.
Ça veut dire à quel point c'est solide. Le législateur a solidifié ce droit-là.
Ok, merci. Alors, on nous dit que nous avons un SMS, on va consulter pour voir véritablement, mais le temps de consulter, avant de consulter ce SMS, on va revenir à Cabral. Et rappelez peut-être aux deux auditeurs également que vous avez la possibilité, hein, nous l'avons dit, d'interagir au 653-81-19-18, 653-81-19-18 ou au 242-00-65-38, 242-00-65-38. Cabral, je vais revenir à vous. Alors, je vais poser encore une question. Je suis le citoyen lambda. Vous vous rendez compte, hein, autour de la famille de Jean-Claude Essomba, vous rendez compte que ça fait plus de 48 heures qu'il est gardé à vue sans qu'aucun mandat ait été préalablement émis à son encontre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation?
Alors, c'est une très bonne question parce que ça participe des exactions que l'on observe constamment dans les commissariats. La garde à vue, nous l'avons dit, elle est de 48 heures. Elle est de 48 heures. Je pense qu'il y a une exception qui est faite, mais il faut que ce soit ordonné par le juge. Donc, si 48 heures s'écoulent et qu'une personne est toujours en garde à vue, sans qu'il n'ait été notifié, et puis la notification, ça a du sens, sans qu'il n'ait été notifié de ce que le juge a prorogé sa garde à vue, eh bien, ceux qui le gardent à vue tombent déjà sous le coup de la loi, et cette personne est fondée de saisir lui-même le juge afin que ce dernier ordonne sa libération. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, il se réserve lui-même le droit de poursuivre ceux qui l'ont illégalement détenu.
Merci. Oui, Raoul, Sa Majesté, vous l'ajoutez.
Comme Yvan évoquait le cas de Jean-Claude Soba, qui a passé près de 48 heures de garde à vue. Bon. Et comme le cabal le disait tout à l'heure, la garde à vue peut être renouvelée.
Oui.
Elle peut être renouvelée.
Formellement.
Une fois ou deux fois de façon exceptionnelle, par le procureur de la République. On comprend que certainement comme Jean-Claude Issoba est ici sous le coup d'un flagrant délit, que certainement il y a eu extension de la garde à vue. Et là, je suis en accord avec Cabral. Dès lors que quelqu'un est déjà détenu pour plus de 48 heures, il est impérieux de connaître d'abord l'auteur ou les auteurs de la garde à vue et les raisons pour lesquelles cette garde à vue a été renouvelée. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent deux semaines en cellule, ça ne dit rien à personne. Ils disent non. Bon, vous êtes en cellule, non. Je dis, dès lors que la garde à vue a déjà excédé 48 heures, vous êtes fondé de demander d'abord qui est l'auteur de la garde à vue, hein, en vous projetant dans l'hypothèse d'un procès. Que bon, si c'est lui, et s'il fait, c'est fait de façon arbitraire, alors moi je vais défendre mes droits. Et à côté du fait que vous devez savoir qui est l'auteur de ce renouvellement de garde à vue, il faut savoir les raisons, on doit vous préciser les raisons, les motifs
de renouvellement.
C'est des droits de la personne arrêtée. Mais aujourd'hui, je l'ai dit dernièrement, ce qui arrive aux justiciables, c'est par leur propre faute. Le problème, c'est leur manque de combativité. C'est pour ça que je pense que ce programme va quand même aider les Camerounais à comprendre qu'ils ont des droits. Même quand ils sont en justice, même quand ils ont des soucis en justice, ils ont des droits qui sont consacrés par les textes législatifs et réglementaires auxquels sont soumis ces autorités judiciaires. Tout se passe aujourd'hui comme s'il y avait une impunité et comme s'il y avait une consécration de l'arbitraire au niveau du pouvoir judiciaire. Dernièrement, le premier président de la Cour suprême, lors de la rentrée judiciaire, a évoqué la justice privée qui semble prendre le dessus aujourd'hui sur la justice étatique. Mais il faut bien qu'on se pose la question, savoir qu'est-ce qui fait prospérer cette justice privée. Parfois, c'est l'ensemble des abus, des exactions dont sont victimes les justiciables qui les obligent parfois à passer par la justice privée.
Alors, est-ce un manque de confiance à l'égard de la justice étatique?
Oui, il y a un problème de manque de confiance.
Donc,
il y a un problème de manque de confiance.
Ils disent qu'ils peuvent se rendre justice.
Ils disent qu'ils peuvent se rendre justice. Sans toutefois faire l'apologie de la justice privée, nous disons le problème, ce problème peut être résolu non pas par les conséquences, mais par les causes.
Alors, on nous rappelle, il nous reste deux minutes. Oui, ça va très vite. Nous allons, je vais poser voilà une question qui nous est parvenue par SMS de Stéphane de Mélène. Alors, bonjour en studio, s'il vous plaît. Une personne arrêtée a-t-elle le droit de rentrer dans sa maison pour s'habiller avant d'être amenée par la police si cette personne est par exemple arrêtée en sous-vêtements? Est-ce que la personne a le droit de dire, mes chers policiers, laissez-moi d'abord entrer chez moi et je porte un pantalon, une chemise et je reviens vous trouver?
D'abord, l'hypothèse d'une personne arrêtée en sous-vêtements, c'est une probabilité, mais elle est très faible. Parce que dans ce cas, il faudrait peut-être qu'on vous ait arrêté chez vous. Je doute qu'au Cameroun, sous peine d'atteinte à la pudeur, qu'on se balade en sous-vêtements, excepté les fous, qui eux-mêmes se baladent carrément sans sous-vêtements. Donc, pour des personnes normales, on suppose qu'une personne qui est en sous-vêtements s'est faite arrêter chez elle. Et dans ce cas, avant de l'arrêter, elle a tout à fait le droit de demander à ceux qui sont venus l'arrêter de le laisser s'habiller. Mais dans l'hypothèse d'école même, où quelqu'un ou un agent de police, un officier de police judiciaire muni d'un mandat d'arrêt vous appréhenderait en tenue légère, ben une fois qu'on vous a amené au poste de police, nous l'avons précisé tout à l'heure, l'un des droits que vous avez, dont vous jouissez quand même vous avez été arrêté ou conduit en poste de police, c'est celui de vous faire visiter par les membres de votre famille. Moi qui vous parle, un jour je me suis fait arrêter dans le cadre des activités compliquées que nous menons. J'étais très bien habillé. J'étais en costume et cravate. Mais tout de suite après, j'ai dit à l'agent que je ne pouvais pas entrer en cellule en costume et cravate et que j'avais besoin, avant d'être enfermé, de m'habiller beaucoup plus normalement parce qu'on connaît l'état
hygiénique de nos cellules. Et du coup, mon épouse est venue me rendre visite, cette fois pour que je puisse échanger mon costume en tenue beaucoup plus pratique pour ce type de détention. Donc, pour la petite histoire, c'était évidemment encore un abus. Et puis, dès le lendemain, c'est celui qui m'a arrêté, d'ailleurs, qui est venu me supplier de sortir. Ce que j'ai refusé de faire, estimant qu'on devait me garder à vue, me dire exactement pourquoi j'avais été arrêté et que je l'ai menacé.
Tu ne voulais pas sortir un week-end.
Et je n'avais aucune envie de sortir un week-end. Donc, de toute façon, il a fallu qu'il me supplie longtemps pour que je renonce à les poursuivre. Donc, parce qu'il faut préciser aussi, Raoul, que souvent, les auteurs de ces abus peuvent subir des sanctions disciplinaires d'abord. Et pour le cas spécifique du Cameroun, même par simple courrier, si vous saisissez le délégué général à la Sûreté nationale, il peut déjà sanctionner administrativement les personnes sous réserve des poursuites judiciaires qui s'en suivent.
Et ce qu'il faut aussi dire en quelques secondes, c'est que parfois vous partez même habillé hein, au niveau du commissariat de la gendarmerie et c'est là-bas qu'on vous déshabille. Se passe presque tout le temps. Je dis, monsieur, déshabillez-vous. Tout se passe comme si aujourd'hui, pour que vous vous retrouviez en cellule, vous devez vous déshabiller. Dès que vous l'avez devant la gendarmerie, dans une cellule, on dit, monsieur, déshabillez-vous. C'est la phrase qu'on prononce avant de vous mettre en cellule.
Merci.
Mais je ne comprends pas.
Et c'est un abus.
C'est un abus.
En revanche, on devrait pouvoir vous demander de vous débarrasser des objets susceptibles de faire l'objet. Oui, susceptible de se prêter à d'autres types d'usages. Donc, on va vous dire, par exemple, d'enlever votre ceinture parce qu'il y a une boucle. On va vous dire d'enlever tout ce qui peut être métallique, votre montre, tout le reste, parce que ça peut servir d'arme dans la cellule. En revanche, une fois que vous êtes libéré, encore, vous avez tout à fait le droit de retrouver et de recouvrer tous vos objets que vous avez laissés avant d'entrer.
Qui doivent être préalablement notés au niveau de la main courante.
Qui doivent être notés à la main courante. Et si jamais un de vos objets a disparu, vous vous réservez le droit de les poursuivre. Tout cela est consigné dans le code de procédure pénale.
C'est très intéressant. Nous laissons certainement les auditeurs et auditrices à leur fin. Mais nous vous rappelons tout simplement, nous sommes arrivés au terme de cette émission.
Hélas.
Voilà. Nous reviendrons à vous certainement
le
mardi prochain.
De tenue, on n'en a fait que l'entame. Hein.
Oui, que l'entame, parce que nous allons continuer. Mardi prochain, auditeurs, auditrices, nous vous rassurons, s'il plaît à Dieu, que nous serons toujours ici dans ce studio et nous allons continuer avec les droits de la personne arrêtée. Alors, mais vous pourrez déjà avoir ce programme rediffusé ce jeudi même à 20h et vendredi à 14h. Je n'ai plus qu'à remercier nos experts ici en studio. Sa Majesté, merci. Merci d'avoir consacré votre temps à édifier les masses, comme Cabral Libi aime à le dire. En matière d'édification des masses, il répond toujours présent. Merci d'avoir répondu présent.
Eh bien, si tu permets, puisque je suis associé comme expert, je vais donner un numéro de téléphone WhatsApp qui va permettre à ceux qui écoutent et qui voudraient poser des questions, comme
d'accord,
ça on peut répondre à ces questions
à
quand
fait
on arrive. Le 673 68 92 44, 673 68 92 44, pas de SMS, pas d'appel, c'est inutile, uniquement WhatsApp.
Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices, merci et à la semaine prochaine. Bien des choses à vous.